et le journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Donald Trump devant la justice pénale à New York dans l'affaire Stormy Daniels. Le candidat républicain à la Maison-Blanche dénonce une attaque contre l'Amérique. Nous retrouverons dans un instant notre correspondant Sébastien Paour. Israël réfléchit encore à une éventuelle riposte contre l'Iran. L'État hébreu qui se félicite du soutien de plusieurs pays arabes face à l'agression iranienne. La campagne des élections européennes franchit une nouvelle étape. Aujourd'hui, la règle de l'équité prévaut pour les temps de parole politique. Une règle qui pourrait réduire l'exposition médiatique de certains candidats, pourtant bien placés dans les sondages. Demain l'écho, notre rendez-vous hebdomadaire consacré aujourd'hui à une entreprise qui travaille pour les JO de Paris, la société girondine CVSI. C'est une situation inédite dans l'histoire de la démocratie aux États-Unis. Donald Trump est devenu aujourd'hui le premier ancien président à comparaître devant la justice pénale. L'ex-locataire de la Maison-Blanche est arrivé tout à l'heure au tribunal de Manhattan à New York. Il est soupçonné d'avoir acheté le silence de Stormy Daniels, une ancienne star du porno avec laquelle il aurait eu une relation. On retrouve à New York devant le tribunal Sébastien Paour. Bonsoir.
Bonsoir.
Sébastien, à l'ouverture du procès, Donald Trump a une nouvelle fois dénoncé la chasse aux sorcières dont il serait victime à 7 mois de l'élection présidentielle.
Oui, c'est son registre classique, le registre classique trumpiste auquel il nous a habitués depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche, avec cette expression effectivement « chasse aux sorcières ». Il ne l'a pas utilisée tout à l'heure, mais le fond est le même. S'il est au tribunal ici, s'il est sous le coup de 91 chefs d'inculpation dans 4 dossiers au total, c'est à cause du président Joe Biden, son adversaire démocrate, et du département de la justice dont il tire les ficelles. Tout ça est évidemment orchestré contre lui depuis Washington et depuis la Maison-Blanche. C'est une persécution politique, a dit Trump tout à l'heure à son arrivée au tribunal. Une affaire infondée. Il a aussi dit qu'il était fier d'être ici, qu'il était là pour son pays, que son procès était une attaque contre l'Amérique. Toute cette semaine, au moins, devrait être consacrée à la sélection des jurés. Il faut trouver 12 femmes et hommes plus 6 suppléants, aussi neutres que possible. Et ça peut durer plusieurs jours parce que New York est très majoritairement démocrate. Manhattan a voté à 85% pour Biden en 2020. Il faut donc s'assurer que les jurés potentiels ne sont pas partisans et qu'ils n'ont jamais adhéré d'une manière ou d'une autre aux idées du milliardaire républicain. Il faut par exemple qu'il n'ait jamais assisté à l'un de ses meetings et qu'il ne le suive pas sur les réseaux sociaux. Ça peut être long, c'est pour ça qu'ils sont plus de 500 à avoir été convoqués depuis ce matin ici au 15e étage du tribunal, salle d'audience numéro 59. C'est là que Trump va passer 4 jours par semaine pendant 1,5 à 2 mois avec une pause les mercredis et les week-ends pour faire campagne.
Sébastien Paour devant le tribunal de Manhattan en direct de New York. Merci. Le cabinet de guerre israélien est actuellement réuni à Tel Aviv autour de Benjamin Netanyahou. Enjeu de la réunion, une éventuelle riposte à l'attaque iranienne de ce week-end. Le premier ministre israélien sous pression des États-Unis qui veulent à tout prix éviter l'escalade dans la région. Israël et ses alliés occidentaux et arabes ont réussi à intercepter la plupart des drones et des missiles lancés par l'Iran, 99% selon l'armée israélienne. Mais la menace reste palpable dans le pays, comme a pu le constater Ajra Mohammad à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv.
Quelques vols sont encore annulés ou retardés à l'aéroport, mais pas celui de Raya. Elle pousse ses valises direction la Géorgie pour quelques jours de vacances et pour souffler après ce week-end de tension avec l'Iran. Un bras de fer aérien remporté haut la main par son pays, assure-t-elle fièrement.
Oui, on se sent en sécurité. On a totalement confiance en notre armée. On sait qu'elle est forte, c'est la meilleure au monde.
Mais pour Merav, il faut aussi dire merci aux alliés occidentaux d'Israël qui ont intercepté des tirs.
Ça fait vraiment du bien de voir cette large coalition nous soutenir. On en a vraiment besoin maintenant. Bravo aux Dômes de Fer. Mais sans cette alliance, ça n'aurait pas été pareil.
Finalement, beaucoup se sentent plus en danger en quittant leur pays, à l'image d'Itaï, en route pour Amsterdam avec sa femme et ses 2 filles.
Oui, bien sûr, on ne va pas porter de signes distinctifs. Le t-shirt avec des mots en hébreu dessus. On a dit aux enfants de ne pas parler trop fort. Les gens peuvent comprendre certains mots en hébreu, comme « shalom ». On va faire profil bas.
Et quand on les interroge sur une éventuelle riposte à lancer contre les Iraniens, tous disent qu'il le faudra, mais pas maintenant. La priorité reste la même pour eux, la libération des otages retenus à Gaza.
Ajra Mohammad, Sandrine Malon et Alexandra Vardy, envoyées spéciales de France Culture en Israël. Alors parmi les raisons qui pourraient inciter Israël à mesurer sa riposte, il y a la possibilité d'une alliance régionale avec les pays arabes. C'est l'une des leçons diplomatiques de l'attaque iranienne. L'État hébreu est sorti provisoirement de son isolement au Proche-Orient. Un isolement consécutif à la violence de sa riposte militaire à Gaza après les massacres du 7 octobre. Étienne Monin, une ceinture défensive impliquant des pays arabes s'est mise en place face à l'Iran.
Et cette ceinture défensive autour d'Israël ce week-end fait partie des points positifs pour l'État hébreu. Le dispositif anti-aérien a été voulu par les États-Unis. Ils ont entraîné la Grande-Bretagne, la France et des pays arabes. Seule la Jordanie assume aujourd'hui cet alignement. Mais d'après la presse américaine, d'autres pays, parmi lesquels l'Arabie saoudite, auraient partagé des renseignements, des images radar et ouvert leur espace aérien. Pour la Jordanie, c'est une prise de risque intérieur. Plus de la moitié de la population est palestinienne. Les manifestations étaient déjà très importantes avant cette attaque pour dénoncer l'opération militaire israélienne sur Gaza. Mais le royaume semble avoir misé sur le soutien américain pour assurer sa stabilité dans cet environnement très incertain. Les autres pays arabes se font plus discrets. Après la guerre au Yémen qui a créé un front anti-Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis s'étaient rapprochés du régime des Mollahs qui menacent aujourd'hui de s'en prendre au soutien d'Israël. Pour les États-Unis, cette opération est le point culminant d'une longue stratégie initiée sous Donald Trump avec ce que l'on a appelé les accords d'Abraham. Ils avaient permis un rapprochement entre Israël et plusieurs pays du Golfe. Puis Tel Aviv a été intégré au commandement central de l'armée américaine au Proche-Orient. Et enfin, il y a 2 ans, une réunion secrète avait eu lieu en Égypte avec Israël et les principaux pays de la région. Mais si l'opération défensive a réussi, il est peu probable que ces pays ne suivent Israël dans une surenchère contre l'Iran. Cette coopération est donc au centre de l'équation aujourd'hui pour le gouvernement Netanyahou.
Étienne Monin, merci. En attendant cette hypothétique alliance régionale, Israël a mené aujourd'hui de nouvelles frappes meurtrières sur la bande de Gaza dans le secteur de Khan Younes. Il y aurait 18 morts selon le Hamas. Sur le front nord, 4 soldats israéliens ont été blessés en territoire libanais. Le Hezbollah pro-iranien affirme avoir fait exploser un engin explosif sur leur passage. Le conflit au Proche-Orient a occulté la guerre civile au Soudan. Cela fait 1 an, jour pour jour, que les 2 principaux chefs militaires du pays s'affrontent pour le pouvoir à Khartoum. La communauté internationale est réunie aujourd'hui à Paris pour venir en aide à la population soudanaise. Un sommet organisé par la France, l'Allemagne et l'Union européenne. Après les discussions politiques ce matin, place cet après-midi aux acteurs humanitaires. Gwendal Lavina, les ONG demandent un soutien financier massif pour le Soudan.
À chaque prise de parole, les organisations qui continuent d'œuvrer au Soudan ou dans les pays voisins décrivent la même détresse des populations, celles qui fuient et celles qui restent, prises en tenaille depuis 1 an entre l'armée régulière du général Al-Bourhan et les forces paramilitaires du général Hamdan Daglo Diémétie. Le travail des ONG et des organisations internationales est limité par le mépris des belligérants pour le droit humanitaire et la faiblesse des financements, de l'argent pourtant vital. Clémentine Nouekta, représentante spéciale adjointe de l'ONU pour le Soudan.
Les fonds que vous vous engagez à débloquer nous aideront à sauver des vies, nourrir les enfants sur le point de mourir, fournir des médicaments aux hôpitaux et soutenir les familles déplacées tant que la guerre fera rage.
Cette aide doit aussi bénéficier aux pays voisins qui participaient à la conférence de cet après-midi. Kevin Goldberg est le directeur de Solidarité internationale.
Je vous invite aussi à mieux accompagner les communautés réfugiées et donc à réfléchir à l'échelle régionale car intensifier nos efforts au Soudan et dans les zones frontalières nécessite plus d'aide pour les pays voisins.
Le président Emmanuel Macron, qui clôturait la rencontre, vient d'annoncer que 2 milliards d'euros ont été promis grâce à cette journée et appelé à ce qu'ils puissent rapidement se transformer en aide sur le terrain.
Gwendal Lavina de la rédaction internationale de Radio France. La campagne pour les élections européennes du 9 juin prochain est entrée dans une nouvelle phase réglementaire aujourd'hui. Voici venu le temps de l'équité. L'ARCOM, l'autorité de régulation des médias audiovisuels et numériques, veille au grain pour faire respecter ce principe. Héloïse Roger, bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
L'équité répond à des critères plus larges que l'égalité et c'est un vrai casse-tête pour l'ARCOM.
Pendant cette campagne, le temps de parole d'un parti est décompté, évidemment lorsque
que sa tête de liste s'exprime à la télé ou à la radio, mais cela peut aussi concerner toute personne qui évoque les élections européennes et se manifeste en soutien à un candidat. Cela s'applique aussi au président de la République. Il faut donc être attentif à tout et à tout le monde. Certaines personnalités politiques sont même déjà inscrites sur la liste de l'ARCOM comme affiliées à un parti. Leur temps de parole est donc intégré directement dans le décompte global. C'est le cas de Philippe de Villiers, ancien eurodéputé qui anime une émission sur CNews. Ses prises de parole à partir d'aujourd'hui sont rattachées au parti d'hiver droite.
Et le calcul de cette équité, Héloïse, se fait en fonction du poids politique de chaque liste.
Oui, et pour cela, il faut se référer au score de chaque parti réalisé aux précédentes élections européennes, mais aussi au scrutin des législatives et de la présidentielle, ainsi qu'aux enquêtes d'opinion réalisées pendant la campagne. Le Rassemblement national, par exemple, est arrivé en tête en 2019 aux européennes et en deuxième position à la présidentielle. Il faudra donc s'attendre à plus de présence dans les médias du parti d'extrême droite. C'est le cas inverse pour les socialistes, menés par Raphaël Glucksmann, désavantagés avec les scores des dernières élections européennes et présidentielles, respectivement 6,2 et 1,75%. 27 médias audiovisuels sont concernés par ce principe d'équité, dont Radio France, et cependant 8 semaines jusqu'au scrutin le 9 juin prochain. La presse écrite et les réseaux sociaux, eux, n'y sont pas soumis.
Héloïse Roger, merci. Une campagne européenne marquée par la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Illustration ce soir avec trois personnages, Amandine Le Pen, Chloé Le Pen ou encore Léna Maréchal. Ces dernières semaines, via le réseau social TikTok, ces trois créatures ont fait la promotion des idées de Marine Le Pen, Jordan Bardella et Marion Maréchal. Toutes se présentent comme nièces de Marine Le Pen. Elles lui ressemblent, mais en fait, elles n'existent pas, car ce sont des deepfakes, hyper-trucages en français, des images créées à l'aide de l'intelligence artificielle. Bonsoir Adrien Toffolé.
Bonsoir.
Ce n'est pas la première fois qu'une telle tromperie touche le paysage politique en France, mais l'utilisation de l'IA à des fins politiques et idéologiques devient à chaque fois plus dangereuse, Adrien.
Oui, on citera notamment en décembre dernier 7 fausses allocutions d'Emmanuel Macron.
La décision de ne pas ouvrir 10 000 places supplémentaires en hébergement d'urgence a été motivée par des considérations budgétaires. Et puis...
voix robotique, mouvement de la bouche mal synchronisé, partagé sur X par la députée écologiste Marie-Charlotte Garin, sans véritable avertissement dans un premier temps. Début janvier, un porte-parole de Renaissance, Loïc Signor, avait aussi utilisé l'IA pour détourner les vœux de Marine Le Pen en la faisant parler en russe. Ce genre de vidéos, on en trouve énormément sur les réseaux sociaux, réalisées le plus souvent par des anonymes, au trucage très souvent grossier et à des fins humoristiques. Amandine Le Pen, Chloé Le Pen et Léna Maréchal, d'une, elle ne parle pas. De deux, elle n'usurpe pas d'identité. C'est la grande différence. Ce sont des personnages, des nièces inconnues de la famille Le Pen. Et tout cela rend le subterfuge beaucoup plus crédible et donne à leur message des appels à voter Bardella et Maréchal. Une immense viralité, des millions de vues au total entre TikTok et leur reproduction sur X et Instagram. Le Rassemblement National et Reconquête toutefois se défendent d'être derrière ces créations. Ce week-end, Jordan Bardella a même réagi aux publications en dénonçant une utilisation malveillante et en appelant à une régulation par les pouvoirs publics. Le fait est que n'importe qui peut être derrière ces créations. L'un des auteurs qui reste anonyme, cité par un journaliste de Tech & Co, assure avoir réalisé une expérience sociale pour démontrer les dangers de la désinformation et des deepfakes. Ces faux profils TikTok ont tous été fermés entre hier et aujourd'hui. Une question demeure, ont-ils été fermés par leurs propriétaires ou ont-ils été censurés par la direction de TikTok à qui l'Union européenne et les autorités françaises aussi demandent depuis des mois et à l'approche des élections européennes la plus grande vigilance.
Adrien Toffolé, merci. La menace terroriste va-t-elle remettre en cause la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris prévue sur la Seine le 26 juillet prochain? Sur BFM TV, Emmanuel Macron a révélé l'existence d'un plan B et même d'un plan C, le Trocadéro ou le Stade de France à Saint-Denis en dernier ressort. Avec un budget total de 8 milliards d'euros, ces JO de Paris constituent en tout cas une formidable opportunité pour les entreprises françaises. 4 milliards sont consacrés à l'organisation de l'événement et de nombreuses PME de l'économie sociale et solidaire ont décroché des contrats. Demain, l'Écho s'intéresse ce soir à l'une de ces entreprises adaptées, la société CVSI, installée à Braux et Saint-Louis en Gironde. Une société qui a fait en sorte de répondre aux commandes jusqu'à la veille de la cérémonie d'ouverture. C'est un reportage d'Annabelle Grelier.
des stylos, des pochettes, de la signalétique. Les premières commandes sont arrivées en 2021. Beaucoup de sous-traitance, beaucoup de petites commandes qui en 2024 se sont accélérées. Travailler pour les JO, c'est déjà en soi savoir s'adapter au retard dans la chaîne de décision, aux changements de dernière minute et aux demandes particulières, nous raconte Sébastien Peignon, co-dirigeant des ateliers de CVSI.
Notre quotidien, il est tout sauf linéaire. C'est du sur-mesure quasiment à chaque commande.
Et le plus rapidement possible.
Alors, pour hier, ça c'est la base du métier.
Petite plaisanterie, mais tout de suite vérifiable dans le hall d'expédition où quelques palettes sont en train d'être chargées.
C'est les premiers cartons qui vont partir en urgence absolue pour Paris 2024 parce que avec la modification urgence à Tantin, ils avaient un besoin là pour le 15 avril de 10 000 pochettes.
Du côté de l'atelier, sur les machines à impression numérique, ce sont aujourd'hui des grands panneaux sur l'histoire des JO depuis 1924 qui sont en production. Clause de confidentialité, on n'en saura pas plus. Mais là aussi, les équipes sont mobilisées pour livrer le travail dans les délais. Un point d'honneur pour CVSI qui, depuis 17 ans, se bat contre les préjugés sur les entreprises adaptées.
C'est effectivement les clichés qu'on a combattus et qu'on combat encore régulièrement. Les gens pensent qu'on travaille moins vite, les gens pensent qu'on travaille pour plus cher, alors qu'en fait, c'est totalement pas le cas. Quand on gagne parce qu'on a été meilleur que tous les autres entreprises ordinaires du secteur. Il y a une acheteuse d'un grand groupe un jour qui m'a demandé ce qu'on pouvait pas faire. Et j'ai dit, mais enfin, oubliez cette question. Il n'y a rien que vous avez besoin qu'on ne sait pas faire. Et ce que vous demandez aux autres, vous nous demandez la même chose. Ni plus, ni moins. Et tout ira bien.
Remettre l'humain au centre de l'entreprise est pour Sébastien Peignon une réalité au quotidien.
Nous, la première chose qu'on dit aux gens qui arrivent ici, c'est qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à nous faire part de leurs difficultés. Parce que l'objectif, c'est justement de savoir quelles sont leurs difficultés, leurs limites, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire.
Sclérose en plaques, polyarthrite, troubles musculo-squelettiques, beaucoup de handicaps invisibles mais qui sont pourtant bien réels pour ceux qui en souffrent. Céline, comme la plupart des 55 salariés de CVSI, ont eu des parcours professionnels difficiles avant d'avoir pu rejoindre cette entreprise adaptée.
Oui, adaptée à ma maladie, c'est-à-dire qu'on a quand même les possibilités de s'arrêter 10 minutes si on n'en peut plus et qu'on souffre. On peut aménager son temps de travail, ses horaires de travail. On est quand même pas mal aidé. Voilà. Et ça, c'était super important. Dans les autres entreprises, j'ai fait aussi de la grande distribution. T'es pas content, tu dégages. T'es pas capable, tu dégages. C'est marche ou crève, hein, donc, mais après, c'est beaucoup d'entreprises comme ça. Ici, on a quand même un large choix de possibilités d'aménagement de poste.
Non sans une certaine fierté d'avoir assuré quelques commandes pour les Jeux Olympiques, l'entreprise n'a toutefois pas décroché de gros contrats, regrette Franck Raymond, l'autre co-dirigeant de CVSI.
J'espère que derrière les JO, ça va nous permettre d'accélérer sur la commande publique. Donc souhaitons que derrière, on puisse enfoncer le clou et puis convaincre les acteurs de la commande publique de nous faire confiance un peu plus. Parce qu'en fait, notre travail depuis 17 ans, c'est ça, et on a beaucoup de mal avec eux. J'espère qu'ils vont prendre conscience que le monde, le secteur inclusif a changé. On est des véritables entreprises.
Les Jeux Olympiques, considérés comme une vitrine de l'innovation et du savoir-faire français, permettront-ils un autre regard, une autre considération pour les petites et moyennes entreprises et les structures de l'économie sociale et solidaire? Ces salariés, en tout cas, méritent déjà, sans aucun doute, une médaille.
Annabelle Grelier, Demain l'écho, un podcast à retrouver sur franceculture.fr. Une petite révolution dans la mobilité à Paris. Les Parisiens se déplacent désormais davantage en vélo qu'en voiture, selon une enquête de l'Institut Paris Région. Dans la capitale, le vélo représente désormais 11,2% des déplacements intramuros, contre 4,3% pour la voiture. Tom Soriano.
Il y a eu un avant et un après Covid. À Paris, la fréquentation des pistes cyclables a augmenté de 166% ces dernières années. Vincent Piloy, du collectif Mobilité.
On a identifié trois motivations principales. Une motivation de bien-être et d'activité physique, une recherche d'efficacité et de rapidité. Et puis le troisième, c'est la recherche de réduction des coûts de déplacement. Et encore un autre élément qui est l'impact environnemental, qui est assez fort, en tout cas dans les motivations qu'on a pu recueillir.
Un engouement qui va aussi de pair avec l'acte 2 du plan vélo de la ville de Paris. Entre 2020 et 2026, 250 millions d'euros doivent permettre de développer des pistes cyclables et des stationnements dans la capitale. Des réalisations ont déjà été faites. Marion Soulet, porte-parole de l'association Paris en selle.
On voit clairement que quand il y a de la volonté politique, on peut très rapidement transformer la vie des gens. Et nous, on le dit depuis 2015, en fait, quand on fait des pistes, on a des cyclistes. Et c'est vrai que c'est aussi le résultat des plans vélos qu'on a eu successivement, qu'on créait des infrastructures qui font qu'aujourd'hui, on peut constater un tel engouement pour le vélo. Maintenant, il y reste encore beaucoup à faire, en fait. Et aujourd'hui, il n'y a que 27% du plan vélo de cette mandature qui a été réalisé, alors qu'il y a plus de 60% du temps qui est déjà écoulé sur ce mandat.
Bien des efforts sont encore nécessaires pour égaler les villes les plus accessibles. Strasbourg, surnommée la capitale française du vélo, compte quelques 600 km de pistes cyclables selon le site de sa mairie. Paris n'en possède pour le moment qu'environ 350.
Tom Soriano, un mot du temps demain. Venteux et pluvieux sur la plupart des régions, en particulier du sud-ouest au nord-est. Les températures minimales iront de 4 à 16 degrés. L'après-midi, il fera de 11 à 16 degrés en général. Plus de 20 degrés autour de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun à la technique, Florent Bujon. 18h.